Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les syndicats se sont-ils fait doubler par les ONG ? Réélu dans un fauteuil, mais un fauteuil bancal. Philippe Martinez reste à la tête de la CGT. Il a été reconduit à son poste vendredi à Dijon, à l'issue du 52e congrès de la centrale syndicale, avec plus de 90% des voix. Mais pas de quoi triompher pour autant. La CGT n'est plus qu'à l'été. La CFDT l'a détrônée de la place de numéro 1. Et c'est sans elle que s'est développé le mouvement social des Gilets jaunes. À vrai dire, cela fait quelque temps déjà que les syndicats semblent avoir perdu le contrôle des grandes mobilisations sociales. Le monde du travail n'en est plus le moteur. La société civile se mobilise à l'extérieur, que ce soit sur les questions de fiscalité ou sur les enjeux environnementaux. Comme l'écrivait le quotidien L'Opinion dernièrement, la CGT fait moins peur aux entreprises que les ONG. Alors de cette nouvelle répartition des pouvoirs, la CFDT semble avoir pris conscience. En mars dernier, Laurent Berger, son secrétaire général, co-signait un appel pour un pacte social et écologique. Il le signait notamment avec Nicolas Hulot et des représentants d'associations et d'ONG. Une façon d'acter peut-être le fait que ces organisations sont devenues incontournables. Alors les syndicats se sont-ils fait doubler par les ONG ? On en discute en compagnie de trois invités. Fanny Guinochet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à L'Opinion, vous y suivez l'actualité sociale et vous êtes par ailleurs chroniqueuse à France Info. Pour discuter avec vous, Jean-Marie Pernaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur à l'IRES, Institut de Recherche Économique et Sociale, qui regroupe notamment des syndicats, des représentants du Premier ministre et des chercheurs. Vous aviez signé, c'était en 2010, mais il faut toujours le citer, c'est disponible chez Folio. Chez Gallimard, syndicat lendemain de crise. Vous posiez la question. Question qui sans doute mérite toujours d'être posée. Et puis notre troisième invité, elle est en duplex des studios de France Bleu à Rennes. Il s'agit de Sylvie Olitreau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste des mouvements environnementaux et écologistes et des ONG. Vous avez notamment publié aux presses de Sciences Po un ouvrage sur la désobéissance civile. Alors Fanny Guinochet, je vais commencer avec vous parce que c'est à cause de vous, grâce à vous, que nous faisons l'émission, puisque vous avez signé il y a quelques jours deux articles dans L'Opinion. Le premier, pourquoi la CGT fait moins peur aux entreprises que les ONG. Le deuxième, pourquoi la CFDT choisit de s'associer aux ONG, ce qui nous a donné l'idée de l'émission de ce soir. Mais je voudrais qu'on commence par ce congrès de la CGT, congrès auquel vous avez assisté l'un et l'autre, Jean-Marie Pernaud et Fanny Guinochet. Je disais Philippe Martinez, donc réélu avec un petit peu plus de 90% des suffrages. Est-ce que pour autant on peut parler d'une réélection triomphale ? En tout cas, est-ce que c'était l'ambiance qui prévalait à la CGT, Fanny Guinochet ?
Pas vraiment. C'est une victoire incontestable, puisque Philippe Martinez est réélu pour un mandat, un second mandat. Simplement, il était le seul candidat à sa succession, déjà d'une part. Et puis d'autre part, quand on regarde le score, on est loin d'un score, bon, même si 90% ça semble beaucoup, c'est un score qui est plus bas que certaines élections de secrétaires généraux précédents. Et puis ensuite, il fallait voir l'ambiance du côté de à Dijon. Pendant ce congrès, il y a eu beaucoup d'opposition. On va avoir l'occasion d'en parler, mais de contradicteurs. On se rend compte que Philippe Martinez est élu un peu par défaut, puisque finalement, il y a toute une frange de la CGT ultra, plutôt située à gauche de l'échiquier du syndicat, révolutionnaire, qui a envie d'action coup de poing, qui trouve que Philippe Martinez est finalement beaucoup trop mou, donc qui est un peu déçu. Et puis de l'autre côté, il y a ceux, les réformistes, en tout cas qui aimeraient un syndicalisme CGT un peu plus proche de ce qu'on a pu connaître du temps des années de Bernard Thibault, où il y ait des alliances avec d'autres syndicats. Eh bien eux, ils trouvent que finalement, Philippe Martinez n'a pas les épaules pour tenir la centrale et qu'il se laisse complètement aller au gré, au vent, qu'il n'a pas les épaules. Donc finalement, c'est un congrès où Philippe Martinez ressort vainqueur, mais sans grande victoire.
Alors ces débats lors du congrès de la CGT, Jean-Marie Pernaud, vous avez pu les observer, vous y êtes resté plusieurs jours à Dijon. Est-ce que vous diriez que c'était particulièrement tendu, cette fois-ci, peut-être par rapport au précédent congrès auquel vous avez pu également assister ?
Oui, certainement, c'est lié aussi à la forme de ces congrès, hein, puisqu'on a beaucoup
de néo-participants, de délégués qui viennent pour la première fois. Et puis, de temps en temps, c'est un petit peu une allure de meeting aussi. Enfin, les gens ont des mandats, ils ont des rancœurs. En ce moment, beaucoup de frustration face à ce mouvement des Gilets jaunes que la CGT n'a pas anticipé, qu'elle a même assez sous-estimé à ses débuts, qu'elle a mis beaucoup de temps à comprendre. Certains militants dans les départements, en revanche, sont allés très tôt à leur rencontre. Donc il y a eu une sorte de hiatus entre la direction et la base.
Mais c'est un reproche qui a pu être formulé d'ailleurs à la direction, que ne pas avoir suffisamment anticipé ce mouvement des Gilets jaunes lors
du
congrès.
Ça a été formulé, mais en fait ça s'est plutôt retrouvé dans une sorte de radicalisation du discours. C'est ça que moi je retiens, même si la forme de ce congrès valorise toujours la voix des protestataires et des tendances plus radicales, ils portent toujours ça. La question de l'élection de Martinez n'était pas véritablement un enjeu du congrès, donc je trouve qu'elle était relativement anecdotique. Le débat, en revanche, sur les amendements, il y a pas mal de points de vue de la direction qui ont été battus dans les votes, il y a eu beaucoup d'amendements maintenus, et une ambiance qui n'était pas très très bonne. Mais moi, la question que je me pose, c'est simplement de savoir si la CGT a discuté de ses vrais enjeux. Et c'est là qu'il y a une certaine déception quand on est observateur. Il y a des questions qui se posent, quand on va un peu dans les structures de base, les militants se les posent, et curieusement, les débats qu'il y a eu pendant ces quelques jours ont très souvent, pas toujours, très souvent été en décalage avec ça. La question de savoir sur les adhésions internationales, etc., franchement, c'est pas le problème. Enfin, ce qui menace aujourd'hui la CGT aurait dû attirer l'attention sur d'autres sujets beaucoup plus importants, ces reculs électoraux, etc., qui sont finalement ont assez peu marqué l'ambiance du Congrès.
Alors, il y a des enjeux qui sont d'ordre interne, et puis il y a des enjeux qui sont d'ordre politique. Sur quel sujet se mobiliser? Je disais en début d'émission, Sylvie Olitreau, que vous êtes spécialiste des mouvements écologistes, vous vous intéressez aux ONG qui œuvrent dans le domaine environnemental. Est-ce que la CGT en particulier, les syndicats en général, investissent ces champs-là aujourd'hui, ou bien est-ce que ce sont des organisations qui restent plutôt sur leurs fondamentaux, à savoir la défense des salariés dans les entreprises?
Alors, traditionnellement, déjà, la CGT, il faut le rappeler, n'était pas du tout proche du milieu écologiste, au point que, je dirais, l'allié historique même du milieu écologiste, y compris dans les années 70, c'était la CFDT. Donc, il y a effectivement, je dirais, une différence culturelle même. Culturelle, parce que, par exemple, le rapport à la question écologique au départ, c'était les questions énergétiques, c'était les combats nucléaires ou antinucléaires du côté écologiste. Et c'est vrai qu'ils avaient des positions diamétralement opposées, avec l'un plutôt la défense de l'emploi et des travailleurs, et les écologistes, en revanche, évidemment, sur des questions, de protection à long terme de l'environnement.
Alors, en ce moment, questions, d'ailleurs, Sylvie Olitreau, pouvant avoir un impact sur l'emploi industriel. C'est-à-dire que quand on défend l'environnement, ça suppose aussi des mutations, notamment des mutations dans le travail, ce qui peut mettre mal à l'aise les syndicats.
Tout à fait. Alors, généralement, il y a eu un moment, surtout, je dirais, alors avant de parler de l'époque actuelle, où c'était vraiment deux discours presque d'opposition. Et la seule CFDT essayait d'imaginer ce qu'on appelait les troisièmes voies, des possibilités de nouveaux emplois, et était aussi dans d'autres secteurs, c'est-à-dire que la CGT, évidemment, était beaucoup plus implantée dans des milieux, je dirais, industriels et lourds, alors que la CFDT, elle rassemblait, je dirais, soit la fonction publique hospitalière, fonction publique d'enseignement, et c'était pas du tout non plus les mêmes bases sociales. Donc ça veut dire aussi que, voilà, les syndicats, je dirais, quand vous ouvrez la boîte, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des branches, il y a des positions, c'est pas uniforme. Alors, par contre, ce qui est un peu nouveau, enfin moi je le remarque notamment, moi c'est par le tropisme écologique, effectivement il y a des nouvelles générations. Alors, nouvelle génération du côté des mouvements écologistes et des mouvements aussi ouvriers ou précaires. Parce qu'il faut savoir que la CGT maintenant aussi a une nouvelle génération qui a été mentionné, qui est beaucoup plus radical, qui défend la précarité, qui est aussi beaucoup plus proche des mouvements sociaux, qui sont proches des mouvements écologistes de défense des migrants, etc. Et là, sans que ce soit une alliance objective, je dirais qu'ils peuvent s'entendre. Et il y a aussi, je veux dire, des réflexions aussi dans les milieux écologistes sur ouvrir au-delà de leur base habituelle aussi sociale qui est quand même, bon, un prototype, c'est souvent un jeune urbain et éduqué, enfin, il y a quand même des profils sociaux très particuliers. Et ils veulent s'ouvrir vers de nouveaux, vers de nouveaux nouvelles bases sociales. Donc c'est là qu'ils peuvent se
retrouver. Profil qui est pas forcément effectivement le public des syndicats. Fanny Guinochet et Jean-Marie Pernaud, par rapport à ce que vient d'expliquer Sylvie Olitreau, est-ce que vous feriez d'abord vous le constat d'un, si ce n'est d'un éloignement, mais enfin en tout cas d'une distance importante qui existerait aujourd'hui entre les organisations syndicales et puis ces mouvements de la société civile, notamment qui se développent sur les questions environnementales, ou bien peut-être sur le début d'une prise de conscience du côté des syndicats qui pourrait initier une forme de rapprochement à court ou moyen terme.
Alors, c'est vrai que la CFDT a été, et c'est son ADN, plus proche, ou en tout cas à chercher, ce que disait très bien madame, une troisième voie à s'intéresser à des sujets en dehors du monde du travail. Et l'écologie en faisait partie. Mais c'est vrai que je crois que là où Laurent Berger a compris et s'est dit qu'il y avait une carte à jouer, mais une carte stratégique, c'est que il a ressenti la perte du syndicats, enfin des syndicats en France, et c'est ce recul de la syndicalisation, et il s'est, je pense, posé la question de comment renouveler le genre, comment s'intéresser à d'autres publics, comment les attirer, comment... Et l'écologie, lui, est, il s'est rendu compte que c'était une voie à explorer. Il a écrit, par exemple, un livre avec Pascal Canfin en 2016, donc c'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau. Laurent Berger est très préoccupé, on l'a entendu l'année dernière, sur la question, sur le fait, et c'était avant même les Gilets jaunes, que le syndicalisme pouvait mourir. Donc je crois que dans l'alliance qu'il fait aujourd'hui, en proposant un pacte avec Nicolas Hulot, des associations qui luttent contre la pauvreté, c'est aussi une voie pour peser dans le débat, pour être plus visible, parce qu'il se rend compte que finalement, du côté de ses partenaires syndicaux, c'est assez faible. La CGT, elle a plutôt été, ces dernières années, finalement assez repliée sur elle-même. Déjà parce qu'en interne, c'était compliqué. La succession de Bernard Thibault, souvenez-vous, il y a eu cette affaire avec Thierry Le Pen. Donc déjà, il a fallu qu'elle colmate, qu'elle continue à exister. Et puis que Philippe Martinez trouve une légitimité. Il a eu du mal à la trouver. Et finalement, elle a... eu peu d'espace pour chercher d'autres champs. Elle s'est plutôt concentrée sur on sauve la maison, on se referme. En plus, en face, il y avait un pouvoir politique qui n'était pas forcément facile, dans la mesure où on se souvient de la loi travail. Donc, elle a été dans une opposition systématique. Elle a moins pris le temps et, je pense, stratégiquement, moins investi ces champs-là.
On est dans une question de stratégie, Jean-Marie Pernaud, de stratégie différenciée entre la CGT et la CFDT. Alors, sur ces questions.
Oui, bien sûr, il y a des différences. Mais d'abord, il faut distinguer quand on parle de ONG, associations, mouvements sociaux, c'est pas la même chose. Enfin, chacun de ces sous-univers est lui-même déjà très, très éclaté. Donc, il faut faire attention. Les mouvements sociaux, les ONG, c'est pas tout à fait la même chose. Deuxième remarque, il y a des périodes. La CFDT, c'est pour ça que je suis toujours réticent sur la notion d'ADN, parce que bon, l'ADN, c'est ce qui bouge pas. La CFDT, elle bouge. Et dans les années 70, elle était de ces mouvements sociaux. Contre l'extension du camp du Larzac, les mobilisations antinucléaires, les mouvements féministes, etc. Et puis après, elle a coupé avec ces mouvements-là. Dans les années 80, elle a tourné le dos à ces mobilisations et elle a porté l'accent sur l'entreprise et ce qu'on peut y négocier. Et tous les sujets qui n'étaient pas négociables étaient placés hors champ, parce que la CFDT considérait que c'est à travers cette réimplantation... pas totalement réussi, mais enfin, il y a plutôt mieux réussi que la CGT en l'occurrence, qu'elle pouvait reconquérir une légitimité sur les fondamentaux du syndicalisme. Et puis, ça ne marche pas non plus. Alors, on disait tout à l'heure, la CFDT a damé le pion à la CGT. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la CGT qui est passée derrière. Il n'y a pas de bon significatif de l'implantation de la CFDT. Tout le mouvement syndical est interpellé par cette dégradation. Et je crois que là, effectivement, Laurent Berger a senti quelque chose. Et du coup, je je pense qu'il veut recaler l'organisation sur un point de vue plus sociétal. Et ce qui serait, alors on va voir s'il confirme et comment, mais ça serait une nouvelle, un nouveau changement hein, dans la stratégie de la CFDT.
Est-ce que ça serait aussi une façon peut-être de ramener vers ces organisations des militants qui ont un peu déserté le monde syndical? Vous en souvenez peut-être pas, Jean-Marie Pernaud, mais en 2016, vous signiez un article pour l'Institut de recherche de la FSU, dans lequel vous écriviez notamment ceci: de la libération aux années 80, la syndicalisation était portée par de puissantes attentes collectives. Le syndicalisme était également porté par les engagements de la période, lutte contre le colonialisme, guerre du Vietnam, des engagements qui ont socialisé de nombreuses cohortes de jeunes gens. Ces générations ont trouvé dans l'action syndicale un prolongement logique. Pourquoi ce prolongement logique ne paraît plus aussi logique aujourd'hui?
Eh ben, il fonctionne pas. Et le grand mouvement de désyndicalisation, c'est ça. C'est la rupture de toutes ces transmissions qui se faisaient auparavant. En gros, la dernière génération qui a investi le syndicalisme, c'est ce qu'on a appelé la génération 68. Alors quand on dit les années 68, elles s'étendent jusqu'au milieu des années 70, mais c'est effectivement beaucoup de jeunes qui avaient été socialisés dans des luttes, parfois dans le champ associatif, souvent, et qui trouvaient un prolongement naturel. Et de fait, le repli des syndicats sur l'entreprise a créé une distance. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui peuvent militer à des tas d'endroits, mais qui ne conçoivent pas la syndicalisation comme un geste naturel. Et je crois que ça, c'est... Alors, si on ajoute à ça le fait qu'il n'y a plus de transmission familiale, avant, il y a beaucoup de socialisation au syndicalisme qui se faisait par les parents qui avaient été syndiqués, etc. Or, la génération, les années 80, c'est le grand départ... Puisque les syndicats ont quand même perdu plus de la moitié de leurs adhérents en 10 ans. Tous syndicats confondus. La CGT un peu plus que les autres, mais tout le monde y est passé. Et du coup, il n'y a plus de transmission. Tout ce que cette génération-là avait à transmettre à ses enfants, c'était la prise de distance qu'ils prenaient avec le syndicat. Donc il faut que les syndicats reconstruisent cette envie d'agir, et c'est vrai que s'ils n'élargissent pas le champ de leur intervention, ils risquent d'être acculés pendant quelques temps.
Silvio Litro, vous évoquiez tout à l'heure les différences de base sociale. Est-ce que ça peut être une des explications de ce manque de transmission, disons, de ces mouvements, alors qu'ils peuvent être larges, mais issus de la société civile, alors aujourd'hui beaucoup sur les questions environnementales, manque de transmission, manque de direction vers les organisations syndicales? Est-ce que c'est parce que les bases qui sont mobilisées n'appartiennent pas du tout au même monde et que le monde du travail n'est pas forcément, qui va être mobilisé sur les questions sociales, n'est pas forcément celui qui va se mobiliser sur les questions environnementales?
Sans doute, alors pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, effectivement, on ne peut pas penser de la désyndicalisation, mais la désyndicalisation, on ne peut pas la penser sans les phénomènes, je dirais, plus larges de la désindustrialisation. C'est-à-dire que pour qu'il y ait socialisation familiale, bien souvent, il y avait des bastions, il y avait des modes de socialisation pratiquement de père en fils ou de mère en fille. Et c'était souvent autour de l'usine, par exemple. Ce qui s'est produit dans les années 80-90, et ça, par contre, il y a eu des indicateurs qui le prévoyaient dès les années 80 et ça s'est amplifié dans les années 90, c'est qu'effectivement, il n'y avait plus cette transmission. Alors, non seulement il n'y a plus la transmission, mais les jeunes, y compris les jeunes, je dirais, d'origine ouvrière, poursuivent leurs études. Alors certes, des études, alors les sociologues le voient aussi, qui sont une sociologie très bien déjà définie là-dessus, c'est le fait que le prolongement des études font que les jeunes vont avoir des aspirations, alors pas forcément post-matérialistes, comme parfois on l'écrit, mais tout simplement qui ne sont pas dans le milieu du travail, ou pas seulement dans le milieu du travail, c'est-à-dire les questions de précarité, de migrants, les questions aussi de redistribution sociale, maintenant dans le mouvement écologiste contemporain, et là pour le coup c'est dans les années 2000, il y a aussi une réflexion sur le gaspillage alimentaire, sur aussi les redistributions sociales, sur le fait qu'on gaspillerait trop, donc les questions de décroissance, croissance, etc. Et ça, effectivement, c'est pas dans le milieu de l'entreprise en soi, même si ça interpelle les entreprises, puisque on sait très bien que la consommation verte, aussi les nouveaux modes, de consommation et de production, maintenant construisent aussi des nouvelles manières parfois d'entreprendre. Mais on n'est plus du tout sur les mêmes grammaires. Et en tout cas, là, je rejoins tout ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que on n'est plus dans la génération après 68 ou la génération des années 70-80. On est sur des, y compris dans le mouvement écologiste, sur des nouvelles dynamiques. Et ce qui a été vu sur les questions syndicales, on peut le voir aussi dans le milieu écologiste. Hein. Il faut savoir qu'il y a aussi des générations, que c'est pas aussi, linéaire que ça veut. Enfin, c'est pas le terme écologie est vraiment trop large. Là aussi, il y a des écologistes très radicaux, des écologistes qui vont pas du tout se retrouver dans le discours de Nicolas Hulot et de la CFDT. Il y a au contraire ceux qui vont aller justement sur ce discours-là, d'autres qui même sont plutôt ce qu'on appelle sur le green business et qui veulent, vraiment aller sur des questions économiques et d'entreprise. Donc, c'est pas si simple non plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un éclatement du milieu écologiste aussi sur ces questions-là, et du rapport à l'entreprise et du rapport à l'économie.
Fanny Guinochet.
Justement, sur le rapport à l'entreprise, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, et c'est un peu ce qui m'a interpellée, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises... Un certain nombre de patrons craignent beaucoup plus des ONG ou des coups de poing d'associations, parce que les modes d'action ne sont pas les mêmes que les syndicats traditionnels, que finalement une CGT. Pour faire simple, j'ai un patron qui m'a dit aujourd'hui, vous voyez bien quand une usine ou une marque, une grande entreprise comme Vinci déverse du béton dans la Seine, ça fait plus de bruit, plus de mal réputationnel, et c'est ça qui est en jeu, et c'est ce que craignent les entreprises, qu'un piquet de grève qui va bloquer une usine, un piquet de grève CGT qui va bloquer une usine Vinci sur un site. Et c'est vrai que là aussi, du côté des entreprises, le regard a changé. C'est-à-dire qu'avant, la principale crainte, en tout cas dans les années 70, c'était quand même les mouvements ouvriers et notamment les mouvements syndicaux. Aujourd'hui, un certain nombre, la réputation, l'image que l'on donne à l'extérieur, l'importance que ça a pour le consommateur, pour le client, est telle que finalement les entreprises regardent beaucoup du côté des ONG. Et ainsi...
Mais pardonne-moi, juste ça veut dire, Fanny Guinochet, reprenons l'exemple de Vinci, mais on pourrait prendre
d'autres, etc.
D'autres entreprises, mais que c'est plus alors la question de l'image par rapport à ce qui pourrait être dit sur le fait que ces entreprises, par exemple, polluent, que une question d'image sur le fait que l'on puisse dire que ces entreprises licencient. C'est-à-dire aujourd'hui, le grand public est plus sensible à certaines questions qu'à d'autres.
Je pense que malheureusement, les entreprises qui licencient, et je le dis vraiment malheureusement, on s'y est quelque part habitué. Il y a des plans sociaux régulièrement depuis longtemps. Et derrière une entreprise qui pollue ou qui ne tient pas des normes environnementales, ça peut concerner le travail des enfants, ça peut concerner ce qui se passe dans les abattoirs, on l'a vu, ou même un certain nombre de boycotts, ça a des incidences très fortes sur les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client est un peu plus consommateur. Donc vous avez les réseaux sociaux qui jouent, vous avez des consommateurs ou des clients qui ne font plus appel à vous. Finalement, l'incidence, l'entreprise, elle est surtout pragmatique. Et donc elle voit que l'incidence peut être beaucoup plus forte que certaines actions syndicales.
Il faut dire aussi qu'il y a un renouvellement dans les pratiques qui sont menées. Je voudrais juste vous faire écouter un court extrait d'une série de petits reportages qui ont été faits le 12 mai dernier. C'est assez récent. C'est au Trocadéro à Paris. C'est une nouvelle organisation qui vient de Grande-Bretagne et qui s'appelle Extinction Rebellion.
Des millions de personnes vont mourir.
Plusieurs dizaines. Activistes du collectif Extinction Rebellion ont mené ce matin au Trocadéro à Paris une opération pour alerter contre le déclin de la biodiversité. Des litres de faux sang déversés sur les escaliers de l'esplanade pour alerter l'opinion sur l'urgence climatique et l'extinction de nombreuses espèces, y compris humaines.
Extinction ! Contre l'extinction !
Il faut des actions coup de poing comme en Angleterre, où Londres a été bloquée pendant une dizaine de jours. Il faut qu'on suive l'initiative des Anglais.
The blood running down the stairs.
Voir le sang couler sur les marches, c'est très concret, parce qu'on s'imagine bien toutes ces choses terribles.
Terrible things.
Ce n'est pas juste symbolique.
But this we can actually see, and it's not.
Il y a tellement de
symbolic.
Gens, d'animaux, de créatures
so many people,
qui sont
so
déjà
many
morts.
Animals, so many creatures have already died.
Jean-Marie Pernaud, il y a aussi une question de différence dans les modalités d'action. Vous disiez tout à l'heure, par exemple, le congrès, c'est quelque chose. Le congrès syndical, c'est une forme à laquelle on est très habitué. Il y a aussi, bien sûr, les manifestations, les grèves. Peut-être que ces mouvements-là réinventent un petit peu la façon d'agir et que c'est plus percutant que ce que font les syndicats de manière plus traditionnelle.
Là, faudrait faire le tri dans les associations, parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui se présentent comme des mouvements sociaux, finalement. finalement assez traditionnel, hein, la manifestation, le rassemblement, le name and shame, la dénonciation, tout cela est un répertoire qui est maintenant assez ancien. Les syndicats s'y mettent aussi. La grande différence, c'est peut-être l'usage de l'Internet, qui chez les syndicats reste encore assez pitoyable, là où ces mouvements-là sont branchés sur le net en permanence. Donc, il y a des ajustements comme ça, mais c'est difficile de mettre en regard, parce qu'on a affaire à des formes sociales extrêmement extrêmement différentes les unes des autres. Par exemple, l'exemple, bah oui, certes, mais une entreprise qui licencie et une entreprise qui pollue l'environnement, ça a pas le même effet. Pourquoi ? Parce que quand elle licencie, sa valeur actionnariale monte, et quand elle pollue, elle descend. Et je pense que si beaucoup d'entreprises se tournent aujourd'hui vers les enjeux, enfin, je pense, c'est une banalité de le dire, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'image. Hein, on gère la notoriété, on gère la marque. Qu'on se souvienne du mal qui a été fait à Nike à partir du moment où il a été dénoncé le travail des enfants chez ses sous-traitants. Ils ont perdu 40% de valeur actionnariale et 30% de ventes en moins. Donc, pour une entreprise, cette marque est tout à fait importante. Et c'est vrai qu'ils préfèrent s'associer avec des ONG, alors qu'ils sont, elles, très professionnalisées. Elles fonctionnent plus, d'ailleurs, sur le mode d'une entreprise multinationale que sur la base d'un mouvement social, et qui travaillent sur l'image de marque dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Et maintenant, les entreprises préfèrent anticiper ce risque qui est très important pour elles, parce que il y a l'actionnaire derrière, hein, alors que évidemment les syndicats, bon, bah, ils font des manifs, tout ça est très attendu. Alors moi, je sais pas si d'avoir des syndicats, ça fait peur ou pas aux entreprises, ou effectivement leur attitude est assez prévisible, mais ce que je vois surtout, c'est qu'il y a encore des discriminations syndicales, qu'il y a encore des licenciements de délégués, qu'il y a du fichage de militants syndicalistes, et que on a liquidé les CHSCT, qui étaient tout de même une instance assez vivante dans la plupart des entreprises, et que donc, si vraiment les employeurs craignaient aussi peu les syndicats, je ne suis pas sûr qu'on serait dans un climat comme celui-là. Mais je pense qu'on n'a pas à mettre en regard les deux phénomènes en réalité.
Fanny Guénochet ?
Peut-être la différence aussi, c'est que pour les jeunes générations, pour le coup, les gens qui ont 20 ans, il me semble que les syndicats, l'adhésion à un syndicat, vous parliez tout à l'heure de la transmission, elle n'est absolument pas naturelle. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui parle à des jeunes qui ont du mal à s'insérer sur le marché du travail, parce qu'il y a un éclatement de l'organisation du travail, mais aussi parce que ça ne fait plus, en tout cas la transmission ne s'est pas faite. Alors que les modes d'action d'un certain nombre d'ONG ou de collectifs, finalement, passent par les réseaux sociaux et répondent à peut-être une facilité. Alors, je juge pas c'est bien ou c'est pas bien, mais signer une pétition sur le net, ça va vite, c'est peut-être moins contraignant que d'aller dans une section syndicale, prendre une adhésion, suivre une réunion, s'engager, comme le propose aujourd'hui un certain nombre de syndicats, et notamment la CGT. Et on voit bien que sur les préoccupations, vous le disiez tout à l'heure, des jeunes générations, c'est vrai que la précarité, ils y sont très très sensibles. La mondialisation, c'est quelque chose, et par exemple la question des migrants, la question de ce qui peut se passer à l'autre bout de la planète est aussi peut-être plus prégnante du fait des réseaux sociaux. Et puis l'écologie, vous avez une sensibilité qui s'est faite aujourd'hui, qui n'avait pas lieu dans les générations précédentes, sur la nécessité d'agir vite pour préserver la planète, de lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, les syndicats aujourd'hui, même la CFDT, avaient du mal à investir ce champ. Et c'est récent, hein. La CFDT était sensibilisée sur la question, mais pour autant, elle ne proposait pas d'action en ce sens. Là, aujourd'hui, c'est aussi ce qui se passe. Juste pour terminer, on voit bien aussi que dans les modes d'action, les syndicats n'ont pas obtenu grand-chose ces dernières années. Ça tient aussi aux politiques. Alors que des actions coup de poing plus ou moins violentes, on l'a vu avec les gilets jaunes, eh bien, ont plus de résultats.
Les mouvements écologistes et environnementalistes que vous observez, Sylvie Olitro, ils se caractérisent aussi peut-être par une efficacité. Alors je ne sais pas si elle a, si les syndicats l'ont perdu, mais enfin en tout cas par une efficacité qui peut aussi susciter un engagement plus important aujourd'hui.
L'efficacité est à relativiser tout de même. Déjà parce que, alors, il faut, c'est vrai que le terme ONG est tellement vaste. Alors, on va de l'ONG qui va tout simplement appuyer une politique, je dirais, d'entreprise, hein, et va faire un partenariat avec les entreprises, à des ONG vraiment, celles du type qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois ONG et réseau d'acteurs, hein, c'est souvent des réseaux d'acteurs qui se mettent ensemble sur une cause qui soit la biodiversité, qui soit la question du réchauffement climatique. Et si vous promenez, j'irai parmi les écologistes, eux, ils pensent pas franchement qu'ils sont efficaces parce que ils voient que les questions climatiques, rien n'avance, que la biodiversité n'est pas non plus, j'irai vraiment sur les agendas politiques. Donc, je pense que tout ça est à relativiser quand même fortement et à relativiser aussi au niveau de l'engagement. C'est-à-dire que autant c'est vrai qu'il y a, je pense, un substrat, enfin bref, une base militante de jeunes qui vont juste pétitionner, aller à une fois à une manifestation, etc. Ensuite, il y a quand même au sein des ONG, surtout pour, là pour le coup, je prends que les militantes et les plus radicales, un niveau d'engagement qui est même à la limite beaucoup plus fort que dans les syndicats, puisque ça leur demande vraiment une activité quasiment à temps plein, voire même un mode de vie à temps plein, puisque c'est une transformation de leur mode de vie.
Et comment est-ce que vous voyez, vous, Sylvie Olitreau, cette forme de partenariat donc qui a été lancé en mars avec ce que nous évoquions depuis le début de l'émission, cet appel pour un pacte social et écologique donc auquel s'est joint la CFDT, c'est pas le seul syndicat, il y a aussi la FAGE qui est un syndicat étudiant, il y a l'UNSA et puis il y a une vingtaine d'associations et ONG hein, comme ça qu'elles sont présentées, dont la fondation Nicolas Hulot.
Là, essentiellement, alors justement, comme les ONG, c'est très compliqué, qu'il y a effectivement des subdivisions assez fines d'ailleurs entre elles, celles-ci représentent ce que j'allais dire, le mainstream, mais le mainstream au sens fort du terme, c'est-à-dire celles qui pensent que dans leur stratégie d'action, il faut faire alliance, et il faut faire alliance et élargir la base pour aller vers, j'irais, alors là, l'opinion publique générale, c'est-à-dire sortir même de, j'irais, de l'ornière de la radicalité écologiste. Et là, on est sur vraiment l'idée qu'il faut en faire pratiquement un mouvement social, mais un mouvement social fort, et un mouvement social qui puisse aller au-delà, j'irais, du noyau dur des plus radicalisés. Ça peut être aussi contesté dans le milieu écologiste, et y compris par certaines ONG qui ne sont pas signataires, qui sont j'irai rester sur le bord et qui vont se retrouver, alors je parle surtout des militants, hein, dans les ZAD, même dans des soutiens sporadiques aux Gilets jaunes. C'est-à-dire que là, c'est aussi une frange radicalisée et qui cherche justement alors une autre efficacité, parce que l'efficacité par la dénonciation, ça se passe beaucoup sur les mouvements, enfin sur les réseaux sociaux actuellement, et effectivement, ça peut aller aussi à des actions coup de poing qui sont pas seulement des actions, je dirais, de dénonciation de tel ou tel point, c'est-à-dire vraiment une dénonciation beaucoup plus forte et beaucoup plus radicale, et qui peut aussi être intimidante. Hein, on peut dire ça dans le sabotage. On sait aussi que les éco-warriors commencent aussi à s'implanter en France. Donc, il y a aussi des phénomènes sociaux comme ça qui font que, voilà, c'est les ONG et celles qui ont signé sont quand même plutôt ce qu'on va appeler celles qui sont dans le mainstream, c'est-à-dire celles qui vont faire, j'irais, le cœur de l'action, mais une action qui ne représente pas tout le mouvement écologiste, loin de là.
On parle beaucoup, Jean-Marie Pernaud, depuis quelques années, et en particulier depuis 2017, de recomposition du paysage politique. Est-ce qu'on assiste aussi, justement, est-ce que c'en est la démonstration, là, ce qu'on vient d'expliquer ce soir, une recomposition dans les mouvements sociaux où on voit que différentes formes de mobilisation peuvent s'agréger et qu'on n'est plus peut-être dans des organisations et dans des secteurs qui sont très cloisonnés les uns par rapport aux autres.
Oui, mais c'est pas si cloisonné que ça. Il faut aller regarder dans le détail. Par exemple, sur l'affaire Notre-Dame-des-Landes, la CGT régionale et l'Union départementale de Loire-Atlantique, après des débats internes, parce qu'évidemment, les syndicats, ils se trimballent la question de l'emploi. Ils peuvent pas être totalement irresponsables sur ces questions. Enfin, irresponsables, au sens non responsable vis-à-vis des gens qui les mandatent et qui les représentent. La question de l'emploi, par les temps qui courent, peut pas être traitée à la légère. Donc, ils ont ça à faire avec. Mais au près d'un débat, ils se sont associés à la lutte contre Notre-Dame-des-Landes. Et le collectif des syndicats de Vinci, de la CGT, s'est félicité de l'abandon de l'aéroport. Alors que pour Vinci, c'était évidemment un apport de travail pour de longues années. Donc, il y a déjà des choses qui bougent. On verra où va... Il faut pas regarder uniquement les structures nationales. Les syndicats, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les territoires et les images nationales sont parfois un petit peu déformantes. Alors, on verra où va aller. Parce que pour l'instant, c'est un appel commun entre les associations, un certain type d'associations écologistes, comme il vient d'être dit, et un certain type de syndicats, puisque vous l'avez évoqué, hein, l'UNSA, la CFDT, j'observe au passage que le texte n'a pas été proposé aux autres. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a une impasse qui est faite sur la question des alliances dans le champ syndical. Donc il y a aussi une part de calcul où enregistrer le fait qu'aujourd'hui les syndicats peuvent pas aller très loin ensemble, alors que sur ces questions d'environnement, à mon avis, elles pourraient aller beaucoup plus loin. Même dans le congrès de la CGT, c'est arrivé ces questions-là. Par exemple, il y a eu un amendement très étonnant sur les armes ne sont pas une marchandise. Le texte initial, c'était « sont pas une marchandise comme les autres ». Il y a un amendement qui a été adopté par le Congrès, qui est de dire alors qu'il y a quelques années, vous parliez de cela, vous aviez les syndicats de la manufacture d'armes et cycles, de Dassault, etc., qui montaient au créneau pour dire « les gars, ça va, occupez-vous de vos affaires ». Donc,
vous dites
ça bouge
pourrait,
dans le fond des organisations.
Vous dites que les organisations syndicales pourraient aller plus loin ensemble, mais est-ce que là, ça n'est pas une façon d'acter une sorte, si ce n'est de divorce, mais je sais pas, en tout cas de rupture sur le fait que, voilà, cette fameuse unité syndicale, alors même si on en a vu une démonstration, il n'y a pas très longtemps, contre la réforme de la fonction publique, mais que cette unité syndicale, en tout cas, ce n'est pas le mode d'action qui est peut-être aujourd'hui privilégié par les organisations, qu'on soit du côté de la CFDT ou qu'on soit du côté de la CGT, d'ailleurs, Jean-Marie Carnot.
Je pense que, je l'écris à beaucoup d'endroits, c'est mon mantra. Si les syndicats ne retrouvent pas une parole commune sur des sujets, et comme cela, il n'y a pas de passif historique sur ces questions-là. Un peu avec la CGT, et puis il reste le nucléaire, parce que ça reste une vache sacrée à l'intérieur de la CGT, même si les choses bougent aussi, et l'organisation est beaucoup plus diverse qu'elle ne l'a été sur ces sujets-là. Mais si les syndicats voulaient faire de l'action commune, ça se saurait, mais je pense que c'est une des dernières chances qu'il leur reste de sauver leur image.
Fanny Guinochet.
Et pour le coup, alors je suis moins spécialiste que M. Pernaud, mais je pense que cette chance-là, elle ne va pas être saisie tout de suite, parce que on voit bien les divergences qui sont en train de s'opérer entre un camp réformiste qui est dont le leader serait Laurent Berger, la CFDT, et puis la CGT avec Philippe Martinez, où finalement beaucoup de choses les éloignent aujourd'hui. Il y a plus de terrain de divergence, que ce soit dans les modes d'action, que ce soit dans les thèmes apportés, que ce soit dans le type d'organisation, que de choses qui peuvent les rassembler, même si l'écologie pourrait être un des axes de rassemblement. On n'est plus du tout dans la période précédente qu'à des moments on a pu voir avec un Bernard Thibault et un François Chérec qui trouvaient des alliances. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en interne aussi, ces syndicats sont chahutés, parce que le fait de cette perte de syndicalisation a percuté les syndicats et que chacun cherche sa survie. Alors, est-ce qu'ils vont trouver une survie commune? Je pense que vu l'affichage très ultra qui a été proclamé au congrès de la CGT, je ne suis pas sûre que Laurent Berger aujourd'hui ait envie vraiment de faire cause commune.
Il y a un terrain qui pourrait être un terrain de mobilisation commun, et juste brièvement, Jean-Marie Pernaud, pour conclure, ce terrain commun, puisqu'on est en pleine campagne des européennes, c'est l'Europe. Il se trouve que Laurent Berger, alors hasard du calendrier, est candidat à la présidence de la Confédération européenne des syndicats. Aux dernières nouvelles, je crois pas que ça a évolué, mais en tout cas, il était le seul candidat, je crois. Donc, il va devenir président. Ça va servir à quoi?
Le président de la CES n'a jamais servi à rien. C'est un pur titre honorifique, donc il n'y a pas de raison que ça change. Pour l'instant, ça n'a servi qu'à mettre un peu plus de troubles dans le congrès de la CGT. On verra, je crois que la question qui se pose à la Confédération européenne
des syndicats... Pourquoi troubles, pardonnez-moi, dans le congrès de la CGT?
C'est-à-dire que ça a été utilisé par un certain nombre de gens pour dire, vous voyez bien que la CGT n'a pas grand-chose à faire avec la CES, ce qui est une position en réalité très minoritaire dans la CGT, mais auquel le congrès a donné un écho, parce qu'un congrès comme ça, c'est toujours une caisse de résonance. Mais non, les problèmes de la CES sont beaucoup plus sérieux que cela.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Jean-Marie Pernaud, Fanny Guinochet et Sylvie Olitreau. Je remercie également nos camarades de France Bleu à Rennes et la fenêtre du studio qui vient de se manifester bruyamment. Merci à toute l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Amélie Perrault, Fanny Richer, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Pierre et Legras avec à la prise de son Pierrick Monsigny. Émission que vous pouvez réécouter, télécharger comme chaque soir sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. N'hésitez pas également à nous écrire et à regarder d'ici quelques heures les extraits vidéo que nous aurons tirés de cette discussion. Dans 3 minutes, ce sera la dispute consacrée au spectacle vivant.
Absolument, théâtre, théâtre, théâtre et théâtre. Ce soir au programme de la dispute, le programme du Grain à Moudre demain, Hervé Gardette.
La crise libyenne est-elle sans issue?
La réponse, les réponses, les demain. Hypothèses, demain voilà. À 18h20. Merci beaucoup Hervé Gardet de vous écouter France Culture. Il est 19h, c'est l'heure de retrouver Aurélie Kiefer pour les titres de l'actualité.